Bon, il y a peut-être des questions, alors on va peut-être ouvrir au public, enfin public averti, bien entendu, toutes les questions pertinentes et impertinentes, hein, je crois, peuvent être posées. Oui.
Merci, puisqu'on a parlé de logique managériale, nous sommes aussi dans une situation de crise financière notamment, que vous ne connaissez pas du tout en Belgique, en France, puisque les finances sont françaises. Mais en Belgique, voilà, nous devons faire des économies. Ça a été voté, on dit au pouvoir judiciaire qu'il gérait ses moyens.
L'autonomie de gestion.
Un des reproches que j'entends par rapport à l'institution du juge d'instruction, c'est que lui ne gère pas finalement les moyens. Il a ses enquêtes, il demande des moyens. Vous avez parlé du problème du procès dépressif qu'on va mettre à disposition du juge d'instruction pour bloquer une affaire. Mais avec des moyens réduits, comment gérer justement cette allocation entre les juges d'instruction, etc. C'est une question qui sera effectivement posée par la police qui dit bah, « Nous avons une capacité à mettre à disposition, nous ne pouvons pas vous accorder cette capacité. » Alors il y a des mécanismes de régulation mais qui ne sont pas faciles. Est-ce qu'ils ne sont pas encore plus difficiles justement à l'égard de juges d'instruction qui sont indépendants?
C'est vrai que dans le projet de suppression du juge d'instruction, il y avait sous-entendu l'idée que les parquets sont plus à même de, connaissant tout le contentieux pénal, de voir quelle enquête ça vaut le coup de faire par rapport aux moyens financiers, faire des économies, je vais acheter autant de l'argent en expertise notamment, différentes choses. Et c'est un peu ce qui a été fait aux Pays-Bas d'ailleurs, où il y a eu toute une approche, j'allais dire, financière des enquêtes. Le problème, c'est que ça donne quoi ? Ça donne que, rapidement, si vous êtes au parquet, on va vite voir que, bah, tiens, c'est les affaires financières qui coûtent cher, les papiers comptables et tout, bah, ça tombe bien, c'est pas vraiment celle qui a envie de trop booster. Donc, le problème est là, effectivement. À partir de quel moment on s'autocensure, on limite les fonds. Mais je vous assure que, malheureusement, on y arrive très bien en France à limiter le coût financier des juges d'instruction, car, à force de ne pas pouvoir payer les experts, que les témoins qui viennent soient payés dans 1 an et demi, 2 ans. Vous autocensurez assez vite. Hein, voilà. Par exemple, on fait quasi plus d'expertise comptable, très honnêtement. Expertise informatique, on n'en fait plus. Même en matière de terrorisme, pratiquement plus. Ce sont les enquêteurs qui, pendant la garde à vue, essayent d'exploiter, les services spécialisés essayent d'exploiter, mais on ne va plus passer 2 ans à aller chercher la moindre vidéo, le moindre message, et patata, sauf dans les choses qui en valent la peine. Le problème, c'est que dans des domaines très précis, surtout avec des systèmes de pôles nationaux, mais maintenant on commence à en avoir beaucoup, pôle antiterroriste, pôle génocide, pôle santé publique, pôle financier, bon, ces trucs-là, ça veut dire que vous êtes un pôle, parquetier, instruction. Vous avez affaire toujours aux mêmes enquêteurs, mais vous tracez toutes les affaires importantes. Et là, il est complètement anormal que sur un domaine spécialisé, vous n'ayez pas votre mot à dire sur dans quelle affaire on met des moyens par rapport à quelle autre. Et ça, c'est illogique. Parce qu'on voit très bien celle, nous, on estimerait qu'on pourrait mettre plus de moyens sur une enveloppe plutôt que telle autre. Or, ce ne sont pas pour des raisons financières que les moyens ne sont pas mis de telle ou telle affaire, pour raisons politiques. Et ce n'est pas lié à la gravité de l'infraction, ce n'est pas lié, etc. Donc il y a aussi une façon un peu facile de dire... bon, donc il faut qu'il maîtrise effectivement une vraie indépendance, c'est aussi une indépendance fonctionnelle. D'accord, il faut qu'il y ait une capacité de maîtriser un peu les moyens dans ces domaines-là. Globalement, à l'échelle de tous les contentieux, évidemment, c'est pour les juges d'instruction, mais les juges d'instruction, ils font 4% du contentieux. De plus en plus, ils font la criminalité organisée, les crimes, etc. Dans des secteurs qui vont être de plus en plus spécialisés, justement, avec des pôles, c'est ça l'avenir. Et là, manifestement, sur contentieux toujours le même, on est quand même capable de dire « Ah ben, dans telle affaire, je dirige l'enquête, il me faut plus d'enquêteurs, celle-là ne mérite pas qu'on mette des moyens, on est bien placé pour le faire. » C'est cette discordance, si vous voulez, c'est les raisons pour lesquelles, dans telle affaire, on n'a pas d'enquêteurs et telle autre, on a, qui sont incompréhensibles, malheureusement très compréhensibles dans certains dossiers. Des dossiers ont bouffé des nombres d'enquêteurs phénoménaux parce qu'il y avait une volonté politique uniquement. Et à un moment donné, excusez-moi, mais moi parfois dans certains dossiers, on n'arrive pas à avoir 2 enquêteurs. Vous vous rendez compte que en juin 2003, pour intervenir à Auvers contre les moudjahidines du peuple d'Iran, 1500 policiers. C'est rigolo. Pour des gens qui sont là depuis pas mal de temps, qui sont réfugiés politiques, on a accueilli opposants iraniens. Et puis, pas sous prétexte qu'on a signé 2-3 contrats avec l'Iran, on a 1500 policiers. Vous n'allez pas me dire qu'il n'y a pas un petit problème. Qu'est-ce que vous voulez? Au moment, c'est tellement flagrant que la question ne se pose vraiment plus. Donc, voilà, il y a des choses très choquantes. Je précise que, avant que Van Rynbeck soit saisi du volet financier d'affaires Karachi, quand je m'en occupais encore, lié au terrorisme, c'est-à-dire l'éventuel lien entre non-paiement de commission, etc., je suis allé en Suisse faire une commission aléatoire internationale où je suis allé tout seul, sans aucun enquêteur. Ce qui est complètement en contradiction par rapport à l'importance qu'avait le dossier en France à ce moment-là. Et au discours politique, c'est-à-dire la justice a tous les moyens. Parce que c'est un discours politique classique. Dès qu'il y a un truc médiatique, la justice fait son travail, elle a tous les moyens. Les gars, c'est toujours la même phrase. Et du même côté, vous êtes tout seul. Pendant un an et demi, je n'ai pas eu un enquêteur dans ce dossier. Pas un. Donc là, manifestement, bon. Alors généralement, une affaire terroriste, j'ai 7-8 personnes pour traiter une affaire terroriste classique. Quoi. Donc il y a des choses qui sont choquantes, et en termes d'indépendance, ces choses-là ne devraient pas pouvoir exister, c'est tout. Après, sur financièrement, il faut savoir se raisonner, ne pas dépenser de l'argent, essayer de limiter les coûts. Vous savez, les coûts, c'est généralement pas le problème de l'instruction, c'est le problème des négociations de l'État avec les opérateurs de téléphonie, avec les laboratoires ADN. Et figurez-moi, il y en a pas mal qui ont mis beaucoup d'argent, tout simplement en nous prenant pour des cons, il faut être clair. Voilà. Et c'est vraiment pas le problème du juge d'instruction ou du procureur. C'est un problème de volonté de l'État de dire maintenant ça suffit, c'est n'importe quoi les tarifs que vous nous
vendez. Comme quoi, c'est partout la même chose.
Voilà.
Là, ça a un écho chez nous.
Jouer la concurrence, pas faire des marchés publics complètement ridicules. Voilà, mais ça, on peut parfaitement y arriver. Ça, c'est au niveau national, des marchés publics pour des trucs très précis qui coûtent vachement d'argent. Ouais. Téléphone, évidemment, toutes les coûts téléphoniques qu'on fait, on peut rationaliser. C'est comme ça qu'on va faire des économies. Pas en disant, juge d'instruction, là, tu auras le droit à tant d'argent par an, sinon après, tu arrêtes tes enquêtes. Voilà.
J'ai juste une question qui était plus sur la place du juge d'instruction dans l'institution judiciaire. Si mes souvenirs sont bons, en France, les juridictions sont évaluées. Donc, dans le cas de la LEUF, notamment, il y a des indicateurs de performance qui sont adoptés chaque année et les juridictions sont évaluées. Je voudrais savoir est-ce que les performances du juge d'instruction étaient également évaluées?
Ah, extraordinaire!
Par nombre de demandes d'arrestation.
Non, mais c'est extraordinaire car ils ont essayé de faire ça. Il y a eu des groupes de travail à Chancellerie, et donc j'y étais allé, moi j'avais été entendu comme président de l'Association française des magistrats instructeurs. Il se trouve que ce groupe de travail avait été créé, d'ailleurs était présidé par le président du tribunal, qui est le premier président de la Cour d'appel de Paris, était évalué au moment où on voulait supprimer le juge d'instruction d'ailleurs. On est bien. Et donc, comment on va évaluer la charge de travail des cabinets pour savoir, c'est quand même assez extraordinaire, pour savoir si un cabinet, il y a du retard, ça marche pas, à quel moment le juge d'instruction est en faute, parce qu'il ne bosse pas assez, ça voudrait dire. Bon. Donc ça voulait dire à partir de combien de dossiers dans son cabinet, quel est le nombre normal de dossiers dans un cabinet, à quel moment il est en sur-régime, ou etc. Bon. Fixer un nombre. Imagine comment c'est compliqué. Ça dépend de la complexité du dossier, dans quel domaine. Ça dépend aussi comment, si le juge pose vraiment ses dossiers, parce que le nom, on peut aussi clôturer assez vite. Hein, certaines choses sont. Voilà. Donc ça monte plein de domaines. Et ce qui est étrange, c'est qu'il y avait une telle volonté, ils ont dû abandonner, une telle volonté de mettre la barre haut pour vraiment mettre une pression sur la statistique, j'allais dire, que c'était tellement caricatural que ça fait flop de soi-même. Notamment, ils ne mettaient pas dans les critères la co-saisine, ce qui est assez étonnant. C'est-à-dire qu'on encourageait soi-disant la co-saisine, mais on disait au juge d'instruction, vous ne serez évalué votre cabinet que sur le dossier dont vous êtes premier désigné. Je dis, mais attendez, moi, je suis premier, j'ai 60 dossiers premier désigné, puis je suis dans 80 en co-saisine avec des collègues, et là, tout ce boulot en co-saisine, ça ne sera pas évalué. Non. Et ça induit que je vais me désintéresser des dossiers des collègues, puisque si je m'amuse à vraiment travailler ces dossiers-là, je vais plomber mon cabinet, vous allez me tomber dessus. Voilà. C'est ça. Et c'était censé servir aussi aux juridictions pour pouvoir donner, dans les petites juridictions, du travail en plus au juge d'instruction, du travail autre. venait à une audience correctionnelle, une audience civile, etc. Donc, si jamais il a que en dessous du taux de voilà, c'est très difficile à évaluer, tout simplement parce que la seule évaluation qui tienne, on est noté juge d'instruction, et on a des regards multiples sur les dossiers d'instruction. Il y a la chambre de l'instruction qui va passer les dossiers, il y a les avocats, les paroles des avocats, c'est important quand même. Hein. Il y a ceux qui jugent quand même le dossier, et il y a le parquet. Ça fait pas mal de monde qui voit les dossiers. Donc on arrive à savoir un peu si le cabinet marche normalement, si le juge y fait son boulot ou pas, on peut être d'accord ou pas, mais il y a pas mal de regards croisés. Et quand un juge d'instruction est noté, normalement, si ça, on demande, il y a un écrit présent à la chambre de l'instruction, on demande, voilà, il y a des regards croisés, théoriquement. C'est ce que font généralement les présidents de cour d'appel. Dans la plupart des cours d'appel, ils demandent des avis à ceux qui connaissent de fait le travail du juge d'instruction et les dossiers. Ce n'est pas une obligation, mais c'est fait la plupart du temps dans les notations. Voilà, mais c'est dur à évaluer. Vous savez, c'est dur à évaluer ça. Comment vous évaluez à partir du moment où parfois vous avez des dossiers où personne ne vous demande de les instruire? C'est-à-dire qu'en fait, à la limite, vous faites un non-lieu, tout le monde serait content. Non, mais je veux dire, c'est un vrai problème. Quand vous avez des vieux dossiers, vous arrivez dans un cabinet, il y a des vieux dossiers, ça n'intéresse plus personne. Est-ce que, ou alors que les victimes, éventuellement, encore s'il y en a. Bon. Comment vous évaluez? Moi, je ne sais pas, c'est très délicat. Vous avez le choix, en fait, bien souvent, dans pas mal de circonstances, de terminer un dossier. Moi, par exemple, dossier de terrorisme, j'ai du mal à les terminer quand il n'y a pas de coupable trouvé. Parce que quand il y a eu un attentat et qu'il y a des morts, j'ai du mal à faire le non-lieu et à passer à autre chose. Ce qui explique d'ailleurs que j'ai retravaillé des dossiers comme Copernic, 1980, et que j'ai obtenu l'extradition d'un suspect du Canada qui est arrivé, donc au bout de 6 ans de mon extradition. Bon, je travaille encore sur Rue des Rosiers, vous voyez. Alors Copernic m'avait fait visiter Anvers, il y a eu l'attentat à Anvers un an après Copernic. Et on soupçonnait le même groupe. Donc malheureusement, c'était prescrit chez vous, le dossier était détruit, parce que précisément, il y a eu non-lieu au bout de 4 ans. Et que donc j'ai vu les collègues d'Anvers et ils me disent, ben voilà, on va essayer de trouver dans les commissariats et tout quelques pièces, quelques éléments, mais le dossier lui-même a été détruit parce que c'était prescrit depuis pas mal d'années.
Et détruit malgré tout.
Ouais. Et donc ils l'ont détruit, c'est des archives qui. Bon. J'y sais bête, vous voyez, votre truc était de 81, mais nous on pense qu'on a un groupe qui a fait votre attentat aussi. Il ne faut jamais désespérer dans certains styles de dossiers. Et les dossiers à forte connotation politique, il y a des changements de régime, vous savez aussi. Regardez ce qui s'est passé avec le mur aussi en 89. On a eu les archives de la Stasi, ça a amené pas mal d'informations. On a pu construire des dossiers contre Carlos, par exemple, grâce à ça. Et donc il faut faire très attention. Alors après, vous avez votre président de tribunal qui vous dit effectivement, monsieur Trévy, mais franchement, on croyait que c'est utile de garder les vieux dossiers là, des assassinats au Liban dans les années 80, etc. Statistiquement, il faudrait peut-être les sortir. Je dis, mais ça vous gêne, franchement, ça vous empêche de dormir. Je sais pas, c'est des attentats sûrement par le Hezbollah, on sait pas ce que ça donnera dans 5 ans. Ça vous empêche de dormir. Donc, alors, pareil, les vieux dossiers algériens, ça vous empêche de dormir, qu'ils soient là, l'Airbus, des Français tués dans les années 90. Voilà, il faut à un moment donné. Écoutez, les victimes veulent surtout pas que ça soit clôturé, même si on n'avance pas. Voilà, c'est pas bien gênant. On n'est pas au point de donner de l'argent, c'était de gardiennage, parce qu'on ne peut plus stocker les tonnes, donc ça ne vous coûte rien. Voilà, il faut aussi savoir dire à un moment donné, je suis juge d'instruction, m'a confié des dossiers, ben, je suis désolé, moi je ne le clôture pas parce que j'estime que c'est pas mort et qu'on peut, voilà, on a encore des chances de pouvoir faire quelque chose, il faut être raisonnable. Donc, alors après, vous évaluez comment? Vous pouvez garder ça à ne rien faire, vous pouvez bosser vos dossiers, les bosser vite, les bosser mal, les bosser. C'est des boulots très difficiles. Je crois que c'est difficile d'évaluer un médecin aussi, si vous voulez.
Vous ne pensez pas que tout supérieur, dans toute institution, connaît très bien ceux qui bossent et ceux qui ne bossent pas.
Voilà, je vous dis, après, ouais. Il y a le... Après,
et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ceux qui ne bossent pas? Comment est-ce qu'on gère? Ça, c'est autre chose. C'est mais problème. Je crois que dans toute institution, ouais. Chacun, d'ailleurs, nous, chacun, on sait les collègues qui bossent et ceux qui bossent un peu.
Exactement. Mais après, voilà, la réputation injuste se fait par plein de trucs. Bon, les avocats ont un rôle très important aussi, d'ailleurs, en l'occurrence. Voilà. Donc, bon, mais l'évaluation statistique dans la matière n'est pas évidente. Hein. C'est sûr.
La deuxième question que j'avais, c'était sur les politiques de troisième voie qui ont été mises en place notamment sous Sarkozy, Sarkozy. Est-ce qu'il qu'ils avaient en lien ou non avec la suppression du juge d'instruction, ou bien ça va se retourner.
Pardon, je n'ai pas compris.
Est-ce que ça avait petit, ou non, en lien avec sa volonté de supprimer le juge d'instruction?
Qu'est-ce que j'appelle petit de troisième voie, par contre?
Essentiellement par toutes les mesures qui ont été mises en place pour que le parquet évite la procédure judiciaire.
Ah oui, mais ça avait commencé déjà pas mal avec Sarkozy. Non, ça n'avait pas de lien, puisque dans son esprit, de toute façon, le parquet récupérait tout. Il n'a pas besoin de troisième voie, puisqu'il a récupéré les deux premières. Non, je ne pense pas. L'idée générale de la troisième voie, qui a commencé bien avant, c'est l'histoire de la troisième voie, finalement, elle commence en 81. L'idée qu'il y a d'autres façons pour un parquet de traiter un contentieux pénal que la poursuite pure et simple, ou le classement sans suite. Classement conditionnel, bon, différentes choses, voilà. Donc c'est pas propre à Sarkozy, ça avait vraiment, non, vraiment pas de lien. Par contre, comme je vous l'ai raconté dans l'histoire vraie qui a rien à voir avec Sarkozy, c'est vrai que c'est surprenant parfois de voir une enquête préliminaire qui peut arriver à se clôturer par une espèce de décision qui n'est pas juridictionnelle, pas susceptible d'appel, une transaction. Quoi.
Une transaction.
Voilà, une transaction. Et où il y a eu... Alors, surtout quand elle a été très médiatisée, tout le monde a entendu parler, etc. Bon. Et en plus, on est dans l'ambiguïté, car ces procédures préliminaires parquet sont de plus en plus longues, sont médiatisées, mais ne sont pas contradictoires dans les textes. Normalement, personne n'a accès à la procédure. Donc, vous pouvez avoir votre nom qui paraît dans la presse pendant un an. Il est impliqué pour ceci, pour cela... voilà, vous avez pas la procédure, ce qui est quand même un grand problème. Et les avocats demandent beaucoup en France à avoir des droits dans l'enquête préliminaire aussi, pouvoir représenter leurs clients, etc. Puisque si on va pas à l'instruction, ils n'ont rien. Effectivement, ils n'ont rien jusqu'à ce que leurs clients se retrouvent dans le tribunal. Là, boum, à la fin des courses, ils se retrouvent. Quand c'est des affaires complexes, c'est un peu gênant parce que toute l'enquête s'est faite par parquet, sans participation du tout des avocats. Et c'est là que l'instruction a un côté contradictoire beaucoup plus grand, les demandes d'actes, les appels des demandes d'actes. Et puis surtout, à la fin, c'est une décision juridictionnelle que rend le juge. Que ça soit le non-lieu ou que ça soit un renvoi, c'est une décision de justice. Un classement sans suite n'est pas susceptible de recours. Donc c'est toujours gênant quand vous êtes victime ou quand peu importe, ou vous êtes intéressé à une manière X ou Y, que cette enquête préliminaire se clôture. Par espèce de... Voilà, mais bon.
Juste une question, c'est... Enfin, on a plusieurs, mais... Dans tous les exemples que vous avez pris et qui sont... Vous connaissez plus ou moins de loin, donc on voit bien de quoi il s'agit et d'autres exemples qui sont dans votre livre, on voit bien effectivement comment les politiques, quand ils sont impliqués de près ou de loin d'ailleurs dans des affaires, essayent d'une manière ou d'une autre de freiner ou d'empêcher ou... même quand ils n'essayent pas, certains parquets peuvent tenter d'empêcher ou de freiner pour ne pas embêter le politique. Ça, on voit bien. Et je me posais la question, souvent, quand ces politiques sont justement impliquées par des juges d'instruction et par la presse, la défense, qui est la leur bien souvent, essaie d'un acharnement, en fait, de la justice contre eux. Avec cette idée que les juges d'instruction instrumentaliseraient en réalité leur fonction pour déstabiliser... des candidats ou des politiques en raison de leur opinion, de leur parti, etc. On voit très bien ce mécanisme. Est-ce que vous pensez néanmoins que ça arrive? C'est-à-dire, est-ce que vous pensez que les juges d'instruction indépendants sont en mesure d'exercer ce type de déstabilisation s'ils le souhaitent? Je ne dis pas du tout qu'ils le souhaitent, mais est-ce que cette relation très compliquée et un peu... ambivalente, voire violente entre le politique et les juges d'instruction, est-ce qu'elle peut aussi être en sens inverse, c'est-à-dire au profit en fait d'un juge d'instruction et contre un politique qui se retrouverait pris au piège d'une enquête
Bon, d'une manière générale, pour ce que j'en avec le recul, je considère que c'est les politiques qui font de l'entrisme dans la justice beaucoup plus que les juges qui sont politisés. Parce que d'abord, pour eux, tout est politique, les politiques. Ils voient tout ça comme magouille politique, tout ça, parce qu'ils font que ça. Et ils ont tellement mis leurs copains à telle ou telle place, y compris les magistrats, essayer d'influer sur les affaires, etc., que c'est tellement malsain l'univers dans lequel qu'ils imaginent nécessairement des mauvaises intentions de la part des juges d'instruction. Le fait est que là, on a parlé d'affaires, parfois Urbas, c'est parti socialiste, parfois SOS Népal, c'est de la droite. Je veux dire, les gens qui sont au pouvoir ont les moyens de faire l'entrée dans la justice et ils considèrent toujours que ceux qui vont les embêter, c'est parce que c'est l'opposition, etc., qui manie. Moi, je pense que le discours qui est servi aux médias est très utilitaire, trois quarts du temps. Bon, un spécialiste, c'est effectivement Sarkozy, parce qu'il se trouve qu'il a pas mal d'affaires, qu'il revient. Que quand il est mis en examen, il arrive tout de suite dans un meeting en disant voilà, c'est pour m'empêcher de revenir, et patata. Bon, comme si il y a un juge qui s'est élevé le matin en disant tiens, au fait, ce serait bien qu'il y ait une affaire Vigne-Mallion qui arrive là, que les. Non, mais je veux dire, malgré tout, faut imaginer aussi ce que ça signifie, ces affaires-là, et que, pour ce que je vois, à quelques exceptions près, la plupart du temps, les juges d'instruction ne sont pas fous. Et sont très prudents dans les affaires qui mettent en cause des personnalités. Ils savent qu'ils auront des avocats en face d'eux très puissants, un adversaire très puissant, que leur chance d'y arriver est quasi nulle. Donc ils savent tout ça. Comme ils ne sont pas kamikazes, franchement, avant d'aller vers une mise en examen, etc. Bon, je dis à quelques exceptions près, car il est vrai que, par exemple, de l'extérieur, certes, mais pour ce qui a concerné... Bordeaux et puis le problème d'abus de faiblesse sur Bettencourt, sachant ce qu'est la définition française d'abus de faiblesse, le nombre d'éléments matériels, il faut aussi faire quelque chose qui est gravement préjudiciable à ses intérêts. Donc bon, c'est un article qui a quand même été fait pour une vieille retraitée qui a 1000 euros par mois et qui achète un tapis à 800 euros à un manouche qui fait du porte-à-porte. Ça a été fait pour ça, cette infraction. Bon. Et la Bettencourt donnait même 50 000 euros, est-ce que c'est vraiment préjudiciable à ses intérêts. Dès le départ, la qualification pénale pose problème, et on voit bien que c'est parce que c'est prescrit financement illégal de campagne qu'on va essayer de chercher autre chose. Bon, ça, c'est plutôt la logique d'acharnement judiciaire qui est liée au fait que quelque chose nous échappe parce que c'est prescrit, c'est trop tard, ça avait été, etc., et qu'on cherche à tout prix aller chercher quelque chose d'autre. Même phénomène qui se pose sans doute pour le problème de la Libye. C'est vachement grave, cette histoire de Kadhafi, de financement éventuel, mais on n'y arrive pas. Alors, il va y avoir, ça va dériver sur des trucs de oh, il a appelé, est-ce qu'on peut à Monaco, un poste, et patata. Voilà. Enfin, bon. Donc, c'est plus. Le danger, il est là pour moi.
Et donc, c'est une sorte d'acharnement, mais pas d'instrumentalisation.
Non, c'est vraiment.
C'est une question d'égo de temps en temps aussi. Hein. Peut-être ça, c'est quelque chose qui peut toujours menacer un juge d'instruction.
Globalement.
Aussi,
après, maintenant, un juge d'instruction, quand il est. Plus enquêteur et moins juge, au bout d'un moment, ce qui se passe, c'est le problème du gibier. C'est-à-dire que si vous vous transformez en chasseur, eh ben, le petit lapin, le sanglier, c'est plus intéressant. Ouais, je fais pas de chasse, mais je suppose que, à force de tirer des petits lièvres qui sortent du trou, vous, franchement, vous vous ennuyez un tout petit peu. Donc, plus le gibier est important, plus vous transformez en espèce de zoro, effectivement. Voilà. Et ça, c'est humain, c'est très dangereux. Et je pense qu'effectivement, la collégialité, par le fait même qu'on prenne une décision à trois, est importante. Et co-saisine, le problème, c'est que même si vous êtes co-désigné avec un collègue, c'est lui qui prend la décision.
Enfin, moi, il y a quand même un contrôle.
Il y a une discussion, mais il prend la décision. Moi, je sais très bien, en matière de terrorisme, je suis en co-saisine souvent. Sur un dossier, on va se partager, par exemple, les interrogatoires, les mises en examen. Mais la détention, c'est que le premier désigné. Et il m'est arrivé d'aller voir un collègue en disant ben « Là, je suis embêté, moi, je trouve qu'il faut le sortir. » Elle a dit « Non, elle a dit non. » C'est quand même moi qui interroge le gars, et lui, il me pose des questions sur ses détentions tout le temps. En collégialité, on est trois, et puis il n'y a pas de premier désigné, et on prend une décision dans ce cahier libéré, et puis il sort ou il ne sort pas. Le truc est tranché.
Mais pas dans... C'est un coup, évidemment, de trois. C'est trois qui doivent bien connaître le
dossier. Mais imaginons une mise en examen de Sarkozy. Dans le secret du délibéré, trois juges d'instruction décident ou pas. Il sera plus embêté, malgré tout, pour dire. Il pourra peut-être arriver à trouver dans les trois qu'il y en a un au sein de la magistrature. Enfin, ce sera un des trois. Maintenant, il y a des collègues qui ont fait n'importe quoi. L'histoire de mur des cons, etc. C'est donner le bâton pour se faire battre. Qu'est-ce que vous voulez? Voilà. Oui, moi il y a des trucs, Et le problème du juge d'instruction, c'est que parce qu'il est seul, il a un côté électron libre. On le pousse à la solitude institutionnelle, et en le poussant, on le pousse à faire des bêtises, et on le pousse à un moment donné perdre les pédales et perdre la notion de ce qu'il peut faire, pas faire, et de l'adversaire qu'il a en face de lui.
Donc il y a quand même ce risque qui est lié à la fonction.
Voilà. Donc il faut limiter ce risque en créant des structures comme la collégialité qui peuvent limiter ça. La solution n'est pas pour moi la suppression, elle reste d'améliorer le système et pas de faire table rase. Bon, c'est pareil pour les écoutes téléphoniques. Vous savez, on fait les écoutes téléphoniques à longueur d'année sur des milliers de personnes, mais ça fait débat uniquement quand c'est Sarko, quoi. Bon, donc c'est, on va faire un débat plus ample. Hmm.
Moi, j'ai une question
sur les derniers.
Oui, est-ce qu'il y a d'autres questions
sur, vous avez dit que pour des perquisitions des écoutes téléphoniques, mais qui ne duraient que 2 mois, le ministère public pouvait s'adresser uniquement au juge des libertés.
Ouais.
Il décide de la mesure, mais le ministère public continue d'enquête.
Oui.
On appelle ça chez nous le juge de l'instruction.
Là, c'est juge des libertés de la détention.
Oui. Et on fait une différence avec le juge
dans la mini-instruction qui existe actuellement sur ce système-là.
Il y a beaucoup de voix, notamment en Flandre, qui s'élèvent pour passer à un système du juge de l'instruction. Est-ce qu'il manque un juge d'instruction un peu électro-libre qui fait à la fois l'enquête et qui rend des mesures, qui décide de mesures portant gravement atteinte à des droits, c'est malsain. Alors, moi je pense que sur le plan de l'indépendance, dans les gros dossiers, surtout quand ils sont politico-financiers, le juge d'instruction a toute son importance, mais par exemple dans des dossiers de droit commun, quel système vous allez privilégier? Un juge d'instruction, un juge des libertés, et le parquet qui fait l'enquête?
Pour moi, c'est le problème de l'enquête indépendante qui se pose. L'enquête indépendante, ça veut dire qu'il faut prendre tous les acteurs pour savoir si une enquête est indépendante. Le statut du procureur, son rôle, la police, son statut, les avocats et leurs moyens, et au niveau du siège, actuellement juge d'instruction, juge des libertés et détention. Bon. Quand on pose ce problème-là en France, on sait que le parquet est hiérarchisé, il y a un cordon ombilical. La police est incroyablement hiérarchisé en France. Vous savez qu'un directeur d'un service de police peut être viré du jour au lendemain. D'ailleurs, Sarko l'a fait parce que des nationalistes avaient foulé la pelouse de Clavier en Corse, du jour au lendemain, flap. Donc, si vous voulez, il n'y a pas du tout ce qu'on connaît dans certains pays, un chef de police qui a un statut d'indépendance lui-même. On sait qu'aux États-Unis, dans les grandes villes, le chef de la police est nommé le maire, mais n'est révocable que par une commission de citoyens. Il faut regarder tous les acteurs. Dans certains pays, la police fait toute l'enquête, mais il y a une protection d'indépendance des chefs de police. Bon, en France, on ne l'a pas, ni côté parquet, ni côté police. On n'a pas des grands cabinets d'avocats capables de faire des vraies contre-enquêtes à système common law anglo-saxon par rapport au pouvoir d'enquête du parquet et de la police réunis. Il n'y a pas du tout une égalité des armes, elle n'existe pas. C'est bien problème des pays anglo-saxons, le coût d'expertise privée, le coût de toutes ces choses-là est phénoménal. Du coup, le juge d'instruction est un peu central en France depuis le début parce qu'il représente au milieu une instruction qui doit être à charge en théorie, et surtout gratuite. C'est-à-dire, diligente des expertises, des choses comme ça, dans ce système-là, donc il est complètement. Des demandes d'actes sont faites, il doit y répondre, il est central dans cette histoire-là. Si vous retirez le juge d'instruction dans la configuration actuelle, vous laissez donc parquet non indépendant, police non indépendante, face à des cabinets d'avocats sans réel moyen, un niveau d'aide juridictionnelle très bas, 10 fois plus bas qu'en Grande-Bretagne, par exemple. Donc très franchement, il y a un problème d'exercice de droit à la défense et d'égalité des âmes. Si demain, on me dit que le statut du parquet a changé, ou de la police, on peut avoir des moyens d'avoir une enquête vraiment indépendante. Ce que vous avez, c'est ce qui était proposé par Sarkozy, c'était l'institution du juge de l'enquête et des libertés, le gel. Le gel, c'était pour que ça passe mieux, comme je dis, que ça glisse mieux. mais le problème, c'est qu'il avait prévu le coup, parce que dans tous les discussions, les colloques, tout le monde lui a dit, mais alors, quand le parquet classe sans suite, il n'y a plus de juge d'instruction, il n'y a plus la constitution de partie civile. Le citoyen ne peut plus aller devant un juge d'instruction puisqu'il n'existera plus dans votre projet. Comment il fait si le parquet a classé? Poursuite et poursuite. Vous portez plainte pour une affaire, etc. Elle est classée. Qu'est-ce que vous faites? Et donc, dans ce projet, c'était « mais il n'y a pas de problème, vous pourrez demander au GEL d'ordonner au procureur de faire l'enquête quand même ». Eh bien, le problème, c'est que ça ne marche pas parce qu'on ne donne pas d'eau un âne qui n'a pas soif. Si vous êtes, vous, si vous avez une affaire un tout petit peu complexe, même si vous avez volonté vraiment d'y arriver, c'est parfois très compliqué. Imaginez si vous ne voulez pas. Comment voulez-vous que, parce qu'un juge du siège a dit au procureur, il faudrait que tu fasses ton enquête, si c'est un tout petit peu compliqué, politico-financier, etc., qu'est-ce qui va nous garantir de la qualité de l'enquête qu'elle est faite, alors que celui qui va la mener est celui qui voulait classer d'emblée? C'est ça l'ambiguïté totale du truc. Or, tous ces systèmes-là ont ce problème de fond.
Je comprends bien, mais par exemple, ce système où vous confiez la possibilité pour la perquisition de l'écoute téléphonique, le maximum de mois de se passer, entre guillemets, du juge d'instruction, c'est pas mauvais.
Non, mais personne
ne... Ça peut aussi éviter qu'il se noie sous des tas de dossiers.
Mais personne ne dit le contraire, c'est-à-dire que le parquet, son enquête préliminaire, elle est faite pour quoi ? L'enquête préliminaire, ce n'est pas des poursuites pénales. C'est ce que parfois en France, les citoyens ne comprennent pas. On n'a pas poursuivi encore. On est parquetier, on fait une enquête pour voir s'il y a une infraction. Donc, c'est utile d'avoir des outils, parfois perfectionnés, par exemple des écoutes à mort renouvelable une fois, pour voir s'il y a matière à poursuivre, s'il y a une infraction à poursuivre. Donc, c'est tout à fait logique. Tout à fait logique. C'est juste pour se faire une idée sur est-ce qu'il faut que ça soit poursuivi ou pas. Ce ne doit pas être simplement pour éviter d'ouvrir une instruction à tout prix, parce qu'on voit, une fois que le parquet a utilisé ses pouvoirs-là, il continue en préliminaire, qu'est-ce qu'il fait? Je vous passerai sur les dérives du système aussi, c'est-à-dire que le portable d'un gars du groupe est mis pendant un mois, deux mois, puis après c'est le portable d'un autre du groupe, puis l'autre du groupe, ça dure un an et demi comme ça, quoi. Ça tourne, et manifestement, le juge tamponneur, c'est comme ça qu'on l'appelle, il voit que du feu. Le problème aussi, c'est que, si vous voulez, je prends souvent l'image d'un beau gâteau anglais. C'est pas forcément bon. C'est rose, il y a toutes les couleurs. Il y a une belle pâtisserie, un peu gélatineuse, mais il y a des couleurs, du vert, du rose, du truc. C'est comme ça, présenté, c'est très joli. On présente ça au juge. C'est très beau, ça paraît super, c'est l'enquête finie. Mais il ne sait pas comment elle a été faite. Il ne sait pas s'il y a les œufs pourris. C'est une vraie philosophie de mettre quelqu'un d'indépendant au cœur de l'enquête. Qu'il n'est pas forcément juge d'instruction, on pourrait trouver, si la police a été garantie que d'une indépendance, on n'aurait pas besoin de juge d'instruction. Le juge d'instruction est un mal nécessaire, de mon point de vue, dans le système français. Il n'est pas transposable partout, il n'est pas quelque chose d'idéal loin de là. Mal nécessaire me paraît une bonne expression. Si demain il y a d'autres façons de garantir l'indépendance, maintenant, quand quelqu'un fait une enquête, c'est le procureur, aller devant un juge qui donne des autorisations simplement, donc qui est un peu comme le coucou suisse, c'est, qui sort de la boîte, pouf, pouf, voilà. Bon, avec beaucoup d'ironie, j'avais comparé le gel par rapport au juge d'instruction. Je disais, le juge d'instruction, la colonne qui soutient le droit criminel, colonne pilier de la justice. Le gel, c'est plutôt la cabane au fond du jardin. On ira quand on aura besoin. C'est-à-dire que arriver par intermittence dans une enquête sans savoir, on vient vous demander l'autorisation. Moi, je vois comment ça fonctionne en matière terroriste. Le parquet va voir le juge des libertés et détention pour avoir une autorisation de perquisition de nuit. Il y a un rapport d'une demi-page. Il donne l'autorisation et puis voilà. Alors, il ne demande même pas le dossier. C'est-à-dire, le problème de fond, il est là. Nous, c'est vrai qu'on nous autorise, on nous reproche parce qu'on nous donne nos propres autorisations. Nous, c'est vrai, on s'autorise nous-mêmes les écoutes, on s'autorise nos sonos. Mais au moins, il y a un mérite, c'est que quand les policiers nous disent on connaît notre dossier, on a une capacité de dire non quand c'est abusif, que n'aura jamais un JLD par rapport à ne connaissant pas vraiment le dossier par rapport à un procureur. Ou alors, ça marche avec des moyens énormes. Ça veut dire que ce système marcherait si le contrôle pouvait être effectif à 100%. Que le juge contrôleur, j'allais dire, du parquet, grosso modo, et carrément le double tout le dossier, tout le temps, le connaisse par cœur parce qu'il a le temps de les étudier, et donc est un vrai contrôle. Dans ce cas-là, pourquoi pas? Parce que là, on ne pourrait pas lui faire avaler n'importe quoi. Dans le système français, on voit comment fonctionne le JLD, il ne contrôle rien.
Et la chambre d'instruction.
Le gel. Déjà, les chambres de l'instruction n'arrivent pas à contrôler les juges d'instruction, donc on a ce problème. Maintenant, dans toute la délinquance habituelle, classique, de toute façon, on se passe de l'instruction en France. On traite 4% des affaires. Mais pour répondre à votre question, il n'y a pas besoin de réforme. Le parquet, les convocations par OPJ, les classements sans suite, les classements conventionnels, la comparution immédiate, les voies de poursuite sont la transaction, tout ce qu'on voudra, tout existe. Maintenant, la CRPC, même le PD coupable, Donc, ils ont à peu près tout ce qui est possible qui existe dans tous les pays pour éviter le juge d'instruction. Voilà. Mais vouloir l'éviter à tout prix simplement parce que on n'a pas envie que quelqu'un cherche, ça c'est problématique. Voilà. Donc c'est... il faut éviter le juge d'instruction parce que ça ne sert à rien. Il y a des cas, manifestement, ça sert. Et puis, c'est une garantie pour les citoyens de pouvoir obtenir une enquête gratuite de la part de l'État français quand le procureur ne veut pas poursuivre. C'est un corollaire de l'opportunité des poursuites aussi. Hein. On pourrait avoir un système de légalité où le procureur est obligé, mais bon, quand il ne veut pas, il ne veut pas. Mais encore une fois, il n'y a pas de système illégal. Idéal, il faut voir tous les acteurs. C'est dommage que la police en France soit si hiérarchisée, quand il y a une absence totale d'autonomie. C'est très napoléonien, c'est très... mais bon, le chef de la police en France est président de la République. Quoi.
Ce serait vraiment la toute dernière parce qu'on va bientôt libérer la salle. Et surtout les orateurs.
Non, elle est très hiérarchisée, mais la guerre de police en France commence pour toute la vie. Ça aussi,
bien sûr, elle existe, bien sûr. Elle existe. Bon, ça, c'est des logiques de service, même dans le terrorisme, entre la DGSI et la SDAT, elle existe. Il y a de la guerre des polices. Ça empêche qu'ils ont leur logique. Ils essayent de vendre leur sauce. Mais la guerre des polices a pour fondement principal la volonté de plaire au chef. C'est pas du tout paradoxal. Quand vous voulez plaire à papa-maman par rapport que vous êtes jaloux du petit frère ou de etc., vous voulez bien faire, vous voulez avoir les plus belles affaires, les meilleures notes, quoi. J'allais dire. C'est complètement lié à ça. Il faut montrer aux ministres qu'on fait mieux que les autres en matière d'antiterrorisme, pareil, donc vous imaginez. Quand tout le monde cherchait Colonna en Corse, y compris les gendarmes, tout le monde y allait, c'était pour être le premier à ramener, puis du style, par les félicitations de Dieu, quoi. Donc,
plus de moyens.
Oui, en plus, bon, voilà, mais c'est ça fondamentalement. C'est très lié la guerre des polices avec le besoin de plaire à la hiérarchie.
Voilà, mais je vous remercie vraiment.
Oui,